Extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry. Cela faisait plusieurs jours que j'étais toujours en panne dans le désert à essayer de réparer mon avion. Il me fallut bien longtemps pour comprendre d'où venait ce petit prince et pourquoi il m'avait demandé de lui dessiner un mouton. Le cinquième jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence.
Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs.
Un mouton mange tout ce qu'il rencontre.
Même les fleurs qui ont des épines?
Oui, même les fleurs qui ont des épines.
Alors les épines, à quoi servent-elles?
Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieuse, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire.
Les épines, à quoi servent-elles?
Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon, et je répondis n'importe quoi. « Oh, les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. »«
Oh !»
Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune.
« Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. »
Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, « Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. » Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions.
« Et tu crois, toi, que les fleurs ?»«
Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait.
« De choses sérieuses ?»
Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis, penché sur un objet qui lui semblait très laid.
« Tu parles comme les grandes personnes. »
Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta.
« Tu confonds tout, tu mélanges tout. »
Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent ses cheveux tout dorés.
« Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. « C'est un champignon. »«
Un quoi ?»«
Un champignon. »
Le petit prince était maintenant tout pâle de colère.
« Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les deux additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça ?
Il rougit, puis reprit.
Si quelqu'un aime une fleur, qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça ?
Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif, de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre. Un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçai. Je lui disais, « La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. » Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place et ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait pas apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant « Oh, je me réveille à peine, je demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration.
« Que vous êtes belle,
n'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. Et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi ? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes !»«
Il n'y a pas de griffes sur ma... de tigres sur ma planète !»
avait objecté le petit prince.
« Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe !»«
Je ne suis pas une herbe !» avait doucement répondu la fleur.
« Pardonnez-moi !»«
Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ?»
Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante,
avait remarqué le petit prince.
Cette fleur est bien compliquée.
Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous, c'est mal installé. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme d'une graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort.
Ce paravent, j'allais le chercher, mais vous me parliez.
Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux.
J'aurais dû ne pas l'écouter,
me confia-t-il un jour.
Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eut dû m'attendrir.
Il me confia encore.
Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer.
Je crois qu'il profita, pour son évasion, d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ravonnés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramoner nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince partit pour un tour des différentes planètes. Il arrivait sur une de ces planètes. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour !» dit le renard.
« Bonjour !»
répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là !» dit la voix sous le pommier.
« Qui es-tu ? »
dit le petit prince.
« Tu es bien joli. »«
Je suis un renard !» dit le renard.
« Viens jouer avec moi !»
lui proposa le petit prince.
« Je suis tellement triste !»
« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »«
Ah, pardon !»
fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta.
« Qu'est-ce que signifie apprivoisé ?»«
Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu ?»«
Je cherche les hommes, »
dit le petit prince.
« Qu'est-ce que signifie apprivoisé ?»«
Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?»
Non,
dit le petit prince.
Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens ?
Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et toi, tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde.
Je commence à comprendre,
dit le petit prince.
Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée.
C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses.
Oh! « Ce n'est pas sur la terre !»
dit le petit prince. Le renard parut très intrigué.
« Sur une autre planète ?»« Oui. »«
Il y a des chasseurs sur cette planète-là ?»«
Non. »«
Ça, c'est intéressant. Et des poules ?»«
Non. »«
Oh, rien n'est parfait !» soupira le renard. Mais le renard revient à son idée. « Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent, tous les hommes se ressemblent, je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il.
Je veux bien,
répondit le petit prince.
Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
« On ne connaît les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »«
Que faut-il faire ?»
dit le petit prince. « Il faut être très patient. » répondit le renard. « Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le renard revint plusieurs jours et apprivoisa le petit prince. Puis le petit prince s'en vit revoir les roses.
« Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, » leur dit-il. « Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. »
Et les roses étaient bien gênées.
« Vous êtes belle, mais vous êtes vide, »
leur dit-il encore.
« On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mis sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. »
Et il revient vers le renard.
« Adieu, »
dit-il. « Adieu, » dit le renard. « Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »«
L'essentiel est invisible pour les yeux, »
répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu ta rose qui fait ta rose si importante. »«
C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, »
dit le petit prince afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »
« Je suis responsable de ma rose, »
répéta le petit prince afin de se souvenir.